voulais commencer par remercier Dimitra Panopoulos et Flore Carsamaru de m'avoir invité et d'avoir fait ce colloque très riche, passionnant et très intéressant pour les gens qui travaillent sur le rapport entre théâtre et philosophie. J'aimerais interroger le rapport entre théâtre et philosophie dans le remaniement de la méthode philosophique qu'a entrepris Deleuze dans différents de ses répétitions. Donc j'ai décidé de me concentrer sur différents de ses répétitions et notamment sur une dizaine de pages, coupées en deux par une importante note de bas de page, qui donne un peu la vérité de l'ouvrage, mais dans l'angle mort, comme souvent Deleuze a l'habitude de faire. Cette note de bas de page s'appelle la note sur les trois répétitions, où on voit s'élaborer un lien conceptuel entre le théâtre et la notion deleuzienne de répétition. Alors, pour situer rapidement le problème de différence et répétition, il peut se résumer ainsi. Comment produire la différence? Comment faire la différence? Comment la différence se fait-elle? Quelle doit être notre méthode pour suivre le déploiement de la différence, aussi bien dans le réel que dans la pensée? À ce titre, Deleuze isole trois principales façons de penser, de faire de la philosophie, trois types de méthodes philosophiques qui sont autant de façons de produire la différence. Il fait correspondre chacune de ces méthodes à une répétition. Et c'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui. Et chacune de ces répétitions a un temps, passé, présent et avenir. À partir de chacune de ces trois répétitions, je vais établir un lien que Deleuze ne fait pas forcément, mais que je vais tenter d'élaborer, un lien différent avec le théâtre, avec une pensée du théâtre qui repose chaque fois sur un modèle différent. Donc je vais tenter de montrer que les trois modèles pour penser le théâtre seraient tour à tour l'écriture dramatique, la représentation sur scène et les répétitions. Donc je passe en revue chacune des répétitions platoniciennes, kantiennes et nietzschéennes, telles que les mobilise Deleuze dans différents de ses répétitions, et j'expose le lien que j'établis, hein, qui m'est personnel, avec ces moments du théâtre que sont le drame, la scène et les répétitions. Donc on commence par la première répétition, répétition platonicienne. Deleuze emploie le nom qu'il avait d'abord utilisé pour désigner la méthode de Nietzsche en 1964. Il qualifie de méthode de dramatisation la façon de procéder de Platon. La méthode de Platon, telle que l'interprète Deleuze, consiste à faire la différence entre le même et l'autre. Deleuze nietzschéise donc quelque peu Platon, en affirmant que sa question n'est pas qu'est-ce que, mais plutôt qui. La question qu'est-ce que vise à déterminer une fonction, mais la vraie question serait qui peut à bon droit prétendre à cette fonction. Donc Platon pose un fondement. C'est le rôle que joue l'aigos, l'idée, celui d'un père à la ressemblance duquel va être sélectionné le bon prétendant et écarté le mauvais. Donc la différence se fait en référence à un passé immémorial, et c'est ce que vous pouvez retenir pour l'instant. L'idée fonde toutes les différences parce qu'elle est pure identité à soi, antérieure à toute différence. De par cette pure antériorité et de par cette identité, l'idée rend possible la sélection du même selon un critère de ressemblance. Un bon prétendant sera sélectionné en tant que copie fidèle, ressemblante au modèle du père absent. En revanche, sera écarté le mauvais prétendant, non pas tellement en tant que mauvaise copie, mais en tant que simulacre, image sans ressemblance, simulation de la figure du père, mais sans conformation. La distinction conceptuelle la plus fondamentale du platonisme, dans cette interprétation, consiste dans la distinction entre la chose même, passée, immémoriale, et la simulation de la chose qui se joue, qui se vit au présent. Le fondement, le passé immémorial, joue le rôle que joue Ulysse dans la sélection des prétendants. Ulysse se fait passer pour mort, il se déguise en vieux clochard. Il doit être absent pour éprouver les prétendants. Maintenant, pourquoi est-ce que je fais correspondre cette façon platonicienne de faire la différence au drame? Pour comprendre le lien entre la façon de procéder de Platon et le drame, je dois faire un bref rappel d'un texte très connu, celui où Platon définit la mimésis dans le livre 3 de la République. Le conteur ou le poète se dissimule derrière les masques de ceux qu'il fait parler. Il joue donc exactement le rôle d'Ulysse ou du père absent, du fondement. Un des caractères du drame, tel que le montre Platon, réside dans l'absence de l'énonciateur, de quelqu'un qui parle de sa propre voix, de l'absence de quelqu'un qui parle de sa propre voix, ou dans la présence d'une voix unique, celle du conteur, du poète, on pourrait dire de l'acteur, cette voix unique dissimulée dans les voix des personnages qui sont simulés. Donc c'est une multiplicité des voix, sauf une, pour reprendre l'expression de Denis Guénoun. Donc une certaine absence, un effacement trompeur de l'énonciateur, constitue une des caractéristiques de ce mode d'énonciation dramatique. Alors on peut observer que Platon lui-même procède exactement de cette façon dans ses dialogues. Si Platon est en quelque sorte un auteur dramatique, c'est pas simplement parce qu'il a écrit des dialogues, mais parce qu'il s'est retiré, absenté de ses dialogues, qui s'est rendu inassignable dans ses textes. Platon intègre une absence, une dissimulation, un retrait à son procédé d'exposition, d'énonciation et même de production de la différence, qui fait de sa méthode une opération que je décide de qualifier de dramatique et que Deleuze, quant à lui, qualifie de dramatisation. Donc il y a bien deux façons de dramatiser, l'une qui serait plutôt nietzschéenne, qui vise à faire proliférer les doubles, à faire parler quelqu'un d'autre, à faire revenir la différence, et l'autre platonicienne, qui vise à sélectionner le même. Maintenant, je passe à la deuxième répétition, la répétition kantienne. La deuxième répétition ne vise plus à sélectionner le même en affrontant le multiple, comme dans un corps à corps, mais à réduire la différence aux figures de la représentation. Qu'est-ce que Deleuze appelle la représentation? Très rapidement, Deleuze reprend à Kant l'idée d'une critique immanente de la raison pour lui appliquer en faisant de la représentation le lieu de l'illusion transcendantale. Deleuze qualifie de représentation donc une image de la pensée qui agit à notre insu, une illusion transcendantale de la raison qui nous conduit à ramener la différence à la reconnaissance, au similaire, à l'identique, à la ressemblance, à l'analogie, à l'unique. Donc Deleuze reprend le détail des opérations kantiennes, le jeu des différentes facultés, pour montrer comment la différence qui se présente d'abord à la sensibilité, dans l'immédiat, est progressivement représentée. Il y a parfois un tiret dans représentation pour bien montrer que ça se présente d'abord, puis c'est représenté. Donc cette différence représentée est ramenée à une identité dans le concept, à une analogie dans le jugement, à une opposition dans l'imagination et à une similitude dans la perception. Et toutes ces opérations composent précisément ce que Deleuze appelle l'illusion transcendantale de la représentation. Alors quel rapport pouvons-nous établir entre le théâtre et la méthode kantienne, la méthode transcendantale? Cette fois, cette idée, je la tire moins de mes propres élaborations que d'un texte fondamental pour moi, qui est le théâtre de l'expérience d'Essa Cascopelto. Je signale au passage que dans le séminaire du LAPS, on recevra le 22 décembre Essa Cascopelto, je ferme la parenthèse, c'est fini pour la pub. Vous allez voir, pour ceux qui étaient là hier et qui ont entendu parler de la Coulabar, que dans cette deuxième répétition, on est proche de cette scène transcendantale, de cette structure de l'apparaître, qui est, c'est pas un hasard si on la retrouve chez Cascopelto, qui a lui-même beaucoup fréquenté la Coulabar. Donc la découverte de Kant, si je la résume, elle consiste à dire que les règles que nous observons en dehors de nous sont des règles a priori en nous, qu'il faut cesser de les chercher au dehors et par là même cesser de s'étonner de la présence de ces mêmes règles en dehors de nous. Nous pouvons dire que nous assistons en dehors de nous au spectacle du jeu des règles que nous y avons en quelque sorte apporté nous-mêmes. C'est nous qui nous projetons dans l'expérience. C'est en fait notre subjectivité transcendantale qui se reconnaît de la sorte, dans le spectacle, la représentation, la mise en scène qui lui apparaît dans les phénomènes, dans le sensible. On peut donc dire, au moins à titre de métaphore pour l'instant, que le spectateur de l'expérience opère une mise en scène ou que notre expérience peut être qualifiée de scénique. Voilà où je voulais en venir, à cette scène transcendantale. L'expérience peut bien être comparée à un spectacle, mais c'est parce que notre entendement effectue une mise en scène, laquelle mise en scène est a priori et non a posteriori, comme le pensait Hume. Alors, sans ce dispositif scénique, les phénomènes ne m'apparaîtraient pas sous la forme d'une expérience. Au mieux, ils ne feraient que se présenter, mais demeureraient inconnaissables. C'est pourquoi la scène, ce que j'appelle la scène, avec Essa Cascopelto, et la condition de possibilité de l'apparition. Et on voit les échos que ça peut produire par rapport à la réalité phénoménologique de la scène. Hein, la scène comme vide, comme espace qui étant, qui va permettre l'apparition. Voilà, ça ira. C'est la catégorie donc, qui réalise pour moi la mise en scène de l'expérience. Le fait, elle fait de l'expérience une scène où m'apparaissent les phénomènes. Donc le spectacle de l'univers perd de son mystère, la concordance du sujet et de l'objet se trouve enfin expliquée par cette disposition de l'entendement à mettre en scène l'expérience. Kant critique chez Descartes l'intervention d'un dualisme du sujet et de l'objet, qui est insatisfaisant. Il crée le concept de subjectivité transcendantale pour sortir de ce dualisme. Deleuze voit dans la reprise par Kant du cogito de Descartes une possibilité qu'il reproche à Kant de ne pas avoir exploitée, la possibilité d'un transcendantalisme sans sujet, qui est le deuxième point que je voudrais rapidement aborder maintenant. Cette possibilité, Deleuze la développe dans le remaniement qu'il fait à son tour de la perception transcendantale sous le nom de fêlure transcendantale. Comment passe-t-on du cogito à la fêlure ? Rapidement, le passage de la première à la deuxième répétition n'est pas vraiment opéré par Kant, mais par Descartes. En instaurant un commencement absolu de la pensée dans l'acte d'un sujet qui pense, en dehors de la contingence du temps, Descartes modifie le problème platonicien. En effet, ce qui est premier chez Platon, on l'a vu précédemment, c'est un pur passé. Mais chez Descartes, ce qui est premier, c'est un pur présent, le présent du « je pense ». Le temps de l'idée platonicienne se définit donc par une antériorité absolue sur la différenciation. Comme je vous l'ai déjà expliqué, le cogito, en revanche, prend son sens dans une rupture avec une telle conception du temps. Le temps de la fondation du cogito, c'est le présent. Au fondement dans le passé immémorial de l'idée, Descartes substitue une fondation du temps dans le présent de la pensée. Maintenant, la critique que fait Kant du cogito, elle intéresse Deleuze au plus haut point. Elle va lui permettre d'élaborer la fêlure. La fondation cartésienne se fait une fois pour toutes dans le présent. Et en même temps, cette fondation permet de sortir de la contingence du temps. Le cogito permet de dire que je suis indépendamment du temps. Donc la critique de Kant consiste à dire que je ne peux rien déduire d'autre de l'acte fondateur du « je pense » qu'une existence indéterminée. Je ne peux pas inférer une existence déterminée. Je peux dire que je suis, mais je ne peux pas dire ce que je suis. Alors Kant objecte que rien ne permet à Descartes de passer de la forme indéterminée « je pense » à l'existence d'une chose déterminée. Ce qui lui manque, c'est le temps précisément. La grande découverte de Kant réside donc dans la mise en valeur d'une différence interne entre le « je », sujet transcendantal de la perception, et le « moi » empirique qui, lui, se saisit dans le temps. Et c'est ce qui intéresse Deleuze. Notre intériorité au temps permet de caractériser la subjectivité par une passivité. Donc Deleuze voit ce qu'il appelle la fêlure, donc traverser le sujet et le scinder en deux. Cette fêlure, il la voit à l'œuvre, donc on revient au théâtre, il la voit à l'œuvre dans la composition d'œuvres dramatiques. Hamlet de Shakespeare, Œdipe et Antigone de Hölderlin, et un autre texte qu'il considère comme dramatique, Zarathustra de Nietzsche. Donc chez Hamlet, trois choses s'ordonnent. L'incapacité d'agir, le voyage en mer, et un troisième temps, qui intéresse beaucoup Deleuze, le temps de la dissolution du moi. Son analyse d'Hamlet est inspirée de Hölderlin. Hölderlin qui a montré comment dans la tragédie d'Œdipe, trois éléments se combinent également, le meurtre, l'enquête et l'errance, qui s'organisent autour d'une césure. Hein. C'est le mot de Hölderlin qui est beaucoup commenté par Deleuze et auquel il doit le concept de fêlure, outre les aspects romanesques. Donc le passé correspond au temps du fondement où l'image apparaît au personnage comme trop grande pour eux. Le présent constitue le temps de la fêlure à proprement parler, du dédoublement et de la projection du moi dans cette image. Et l'avenir, que je vais traiter dans la troisième répétition, il se rapporte à une dissolution du moi dans la différence. Donc l'aspect théâtral de la fêlure concerne non seulement la composition dramatique, ce que je viens très rapidement de signaler, mais également une hypothèse concernant le jeu d'acteur qui m'intéresse énormément. La fêlure conduit en effet Deleuze à comparer la situation de ces personnages, donc Hamlet, Œdipe, à celle de la situation de ces personnages à celle des acteurs. Donc je cite Critique et clinique, Oedipe selon Nietzsche, dit Deleuze, se définit par une attitude purement passive, mais à laquelle se rapporte une activité qui se prolonge après sa mort. À plus forte raison, Hamlet annonce son caractère éminemment kantien, chaque fois qu'il apparaît comme une existence passive qui, et c'est juste ce petit mot-là qui me permet de tirer vers l'acteur, donc une existence passive qui, tel l'acteur ou le dormeur, reçoit l'activité de sa pensée comme un autre, pourtant capable de lui donner un pouvoir dangereux défiant la raison pure. Donc Deleuze attribue à Kant la conception d'une passivité du moi due à la figure du temps. S'il ne formule pas proprement parler une hypothèse de la scène, on la trouve nulle part, à ma connaissance, Deleuze effectue cependant ce rapprochement, qui est comme un éclair, entre la passivité transcendantale et la situation de l'acteur. Voilà où je voulais en venir. Ce qui destitue le sujet, pour Deleuze, c'est sa temporalité, son intériorité au temps, le fait d'être traversé par le temps. Donc l'acteur est traversé par une ligne qui le différencie de lui-même. C'est donc cette destitution qui permet de comparer la situation transcendantale du sujet à celle de l'acteur en scène. Et vice-versa, la situation de l'acteur en scène à la situation transcendantale du sujet. En profondeur, ce qui agit donc dans la dramatisation, c'est un agent passif, ce que nous pourrions appeler un acteur larvaire, en écho à ces sujets d'individuation décrits par Deleuze comme des larves. Donc voilà pour les deux premières répétitions. Maintenant, on va passer à la troisième répétition, la répétition nietzschéenne, que Deleuze tire évidemment de l'éternel retour. La troisième répétition conduit à une philosophie de l'avenir, entre guillemets, et un théâtre de l'avenir. Donc le programme de Nietzsche et de Kierkegaard, tel que le comprend Deleuze, consiste à faire de la répétition la catégorie de l'avenir. Chez Kierkegaard, comme chez Nietzsche, la répétition ne se produit pas sur le mode du ressouvenir, la répétition ne fait pas revenir le passé, mais l'avenir. Elle fait revenir l'avenir. C'est cette figure qu'il faut comprendre. La reprise de Kierkegaard est un ressouvenir en avant. Là, je cite la reprise de Kierkegaard, un ressouvenir en avant. Contrairement au ressouvenir, qui est une sorte de reprise en arrière. Mais le souvenir empêche le mouvement de la vraie reprise, qui doit créer la différence. L'éternel retour ne s'accompagne pas non plus d'une remémoration. Il ne doit pas être confondu avec le retour des souvenirs dans la mémoire, au moment de la révélation de l'éternel retour. Celui qui en fait l'expérience n'en a pas de souvenir, ce n'est pas quelque chose qui lui revient du passé. Mais cette expérience est celle d'une répétition de l'avenir. C'est pourquoi l'éternel retour ne nous a pas été révélé un nombre infini de fois, mais dans l'instant unique de la révélation, il vaut pour toutes les fois prochaines qui pèsent sur cet instant. La répétition se distingue non seulement de la mémoire, mais encore de l'habitude. En effet, reproduire les mêmes gestes par habitude n'est pas plus atteindre la vraie répétition que de refaire ce que nous nous souvenons avoir fait. Deleuze peut donc affirmer que Kierkegaard, oppose la répétition de la différence aux généralités de l'habitude et aux particularités de la mémoire. Deleuze distingue alors trois répétitions qui constituent autant de façons de coordonner passé, présent et futur. Une première répétition qui correspond à la mémoire, je cite différence et répétition, constituait le temps comme un passé pur du point de vue d'un fondement qui fait passer le présent et en advenir un autre. Fin citation. Cette répétition ne concerne que le fondement. Elle correspond à la façon dont l'immémorial, chez Platon, constitue un passé pur qui est le temps du savoir. Donc voilà la première répétition. Une deuxième répétition, qui correspond à l'habitude, je cite différence à la répétition, constituer le temps comme un présent vivant dans une fondation passive dont dépendaient le passé et le futur. Donc là, on reconnaît la deuxième répétition. C'est ainsi que la philosophie moderne se fonde dans l'instant du cogito. Cette répétition ne concerne que le contenu et la fondation du temps. On la retrouve chez Kant dans la fêlure du temps qui traverse la perception transcendantale. Maintenant, la troisième répétition, qui est celle qui nous intéresse évidemment, elle constitue la répétition des répétitions. Passé et présent deviennent des répétitions de l'avenir. À cet égard, passé, présent et avenir ne se succèdent pas, mais l'avenir, le présent et même le passé apparaissent comme des répétitions d'un événement intemporel. Donc je cite Deleuze pour bien vous donner à sentir ce qu'il y a à penser dans la répétition, comme catégorie de l'avenir. Donc ces différences et répétitions. Nous ne produisons quelque chose de nouveau qu'à condition de répéter une fois sur ce mode qui constitue le passé, une autre fois dans le présent de la métamorphose, et ce qui est produit, l'absolument nouveau lui-même, n'est rien d'autre à son tour que répétition. La troisième répétition, cette fois par excès, celle de l'avenir de l'éternel retour. Le passé définit l'image d'un événement qui me dépasse, qui n'est pas sans évoquer le repli ontologique de l'idée platonicienne. Le présent désigne la fêlure du temps comme dédoublement du moi, qui correspond, que je fais correspondre à la passivité transcendantale kantienne. Et enfin, l'avenir de l'éternel retour opère la destitution du moi. Ces répétitions correspondent donc à trois façons de coordonner le temps, hein, vous m'avez compris, qui caractérise le fondement platonicien, la fondation cartésienne et sa reprise kantienne dans la perception transcendantale, et enfin, la destitution du moi dans l'éternel retour. Alors, maintenant, on arrive au cœur du sujet. Ça, c'était qu'un mini-kipit pour arriver à ce que je voudrais dire maintenant. Deleuze écarte le rapprochement que je vais faire maintenant. En disant, je cite Deleuze, « Quand on dit que le mouvement, au contraire, c'est la répétition, et que c'est là notre vrai théâtre, on ne parle pas de l'effort de l'acteur qui répète dans la mesure où la pièce n'est pas encore sue. » Donc Deleuze dit ça, et on va essayer de, bon, voilà, d'emprunter, de faire une petite bifurcation par rapport à Deleuze. Parce que Deleuze dit, je ne parle pas de l'acteur qui répète, l'acteur en répétition. Mais il ne semble pas avoir une connaissance très précise de ce que sont les répétitions quand il dit « dans la mesure où la pièce n'est pas encore sue ». Comme si il suffisait en répétition de mettre les gens autour d'une table et d'attendre qu'ils apprennent le texte. Les gens qui ont une expérience des répétitions savent que c'est pas vraiment ce qui se passe, normalement. Comme la plupart, comme un certain nombre de philosophes, mais pas tous, hein, loin de moi l'idée d'affirmer ce genre de choses, Deleuze pense au théâtre à partir de lecture de textes dramatiques, Shakespeare, Oedipe, et à partir de la lecture d'autres philosophes. En fait, sa connaissance du théâtre est par philosophe interposé. C'est pas un hasard si c'est toujours Oedipe et Hamlet qui reviennent. C'est comme si c'était un commentaire de Freud, etc. Il n'est pas seul dans ce cas. Comme si les philosophes n'avaient de cesse de réinterpréter Oedipe et Hamlet, comme si tout le théâtre s'était dit dans Oedipe et Hamlet. Il y a une bonne partie du théâtre qui est à comprendre dans Oedipe et Hamlet, mais on sent bien que Deleuze n'a pas un intérêt très sincère pour ce qui se passe réellement au théâtre. En tout cas, je dis comme ça pour aller vite. À cet égard, c'est vrai que c'était un vrai bonheur d'entendre Jacques Rancière introduire la communication qu'il a faite hier par de vrais souvenirs de spectacles qu'il a vus. Et voilà, donc ça, c'est vrai que c'est assez vivifiant. Deleuze se refuse à assimiler son concept de répétition aux répétitions, mais je voudrais formuler l'hypothèse suivante. De même que la première répétition platonicienne possède une affinité conceptuelle avec une certaine idée de l'écriture dramatique, la deuxième répétition avec une certaine idée de la représentation sur scène, de même le concept de répétition me semble posséder une affinité avec ce moment de travail préparatoire des praticiens de répétition, des praticiens de théâtre qu'on appelle les répétitions. Le concept de répétition permet de penser le théâtre à partir de ce qui se passe non plus lorsqu'un auteur écrit une pièce, qui est tout à fait intéressant par ailleurs, non plus lorsqu'un auteur se montre sur scène, le soir de la représentation, mais ce qui se passe pendant les répétitions. Alors que se passe-t-il en répétition ? Malheureusement, je ne vais pas avoir le temps d'approfondir ce qui se passe dans les répétitions, mais je pense que ça peut être un programme de recherche. Programme qui m'a été, l'idée ne vient pas de moi, il faut bien reconnaître ses dettes, elle vient d'une discussion avec Denis Guénoun. Et voilà, soyons clairs là-dessus. Maintenant, que se passe-t-il en répétition ? Bien, des gens se réunissent en vue de créer quelque chose ensemble, on va dire, pour réduire ça à ce qu'on peut en dire au minimum. Il peut se trouver un acteur, des acteurs, une actrice, des actrices, un metteur en scène ou non, hein, soyons ouverts, il n'y a pas forcément un metteur en scène, un scénographe, des musiciens, toutes sortes de gens qui se réunissent. Et que font tous ces gens ? Eh bien, il me semble qu'ils inventent, qu'ils créent ensemble quelque chose de nouveau. Même s'ils travaillent sur un texte, par exemple, ça peut arriver, ça arrive souvent, ils travaillent sur un texte qui est déjà écrit, et ils cherchent à en faire quelque chose de nouveau, censément. la création de nouveau, c'est exactement le sens de la troisième répétition, et il me semble que c'est aussi le sens des répétitions. Et on peut dire que c'est cela, faire revenir non le même, mais la différence. Par ailleurs, les répétitions, je n'ai pas le temps de parler beaucoup de ça, mais c'est un point qui serait aussi intéressant à développer, elles mettent en jeu le virtuel, qui est un autre aspect très important de la façon dont Deleuze conçoit la différence. Pendant les répétitions, ont lieu petit à petit des processus d'individuation. Par exemple, quand il y a des personnages, il n'y en a pas toujours, mais quand il y en a, pendant les répétitions, ces personnages ne sont pas encore des formes fixes, définies, mais ils sont en devenir. Et bien, les répétitions nous permettent de penser ça, le devenir, le moment où les choses sont en devenir. Elles ne sont pas encore la représentation, elles ne sont pas encore fixées, abouties. Donc penser le fait théâtral du point de vue des répétitions permettrait de réintroduire la richesse du devenir dans la pensée du théâtre. Cela permet ou permettrait de sortir de la sélection du même, de sortir de l'interprétation respectueuse du texte ou de l'auteur, de sortir de la structure de l'apparat représentationnel. Bref, envisager le théâtre, du point de vue des répétitions transformerait radicalement notre façon d'aborder la réalité du théâtre. Alors, il me reste plutôt 3 minutes ou plutôt 2 minutes ?
Plutôt entre les deux, 3 minutes maximum.
Alors, bon, je vais peut-être passer directement à la conclusion et puis on verra dans les questions s'il y a des choses qui... Parce que j'ai l'impression d'être allé un peu vite quand même. Oui. Donc les habitués des textes de Denis Guénoun auront tout de suite reconnu un peu l'environnement problématique dans lequel j'évolue. Je me suis appuyé sur une hypothèse qui est celle du double tournant dramatique puis scénique formulé par Denis Guénoun. Donc, Denis Guénoun explique qu'une mutation du rapport entre théâtre et philosophie au XXe siècle s'est manifestée dans un tournant dramatique auquel a succédé un tournant scénique. Et vous l'avez compris, j'ajoute un troisième tournant qui est le tournant des répétitions. Donc, en fait, son idée, c'est qu'une réflexion travaillée de l'intérieur par une certaine idée du drame, de la situation et de l'action dramatique, la réflexion, par exemple, de Debord, Sartre, Jaspers, Gabriel Marcel ou Paul Itzer, est supplantée dans les années 60 par le renouveau d'une conception théâtrale qui privilégie non plus le modèle du drame, mais de l'action des acteurs en scène. Et cette réflexion est celle, par exemple, de Benjamin, d'Althusser, de Levinas, pour ne citer que cela. Deleuze, sans le découvrir lui-même, et un peu parce qu'on lui fait en ce moment un enfant dans le dos, Deleuze permet donc de penser un troisième tournant. Le modèle pour penser le théâtre ne serait plus ni le drame ni la scène, mais les répétitions. Voilà, c'est un projet que je livre à partir de cette lecture des trois répétitions. Alors, si certains d'entre vous ont perdu le fil, je leur recommande de voir ou de revoir le film de Godard, Forever Mozart. Et pour ceux qui n'ont pas perdu le fil, ils peuvent le faire aussi pour le plaisir. Il y a une phrase qui m'a interpellé dans ce film, c'est la question du père à sa fille au théâtre, qui est le père du personnage? Et la fille répond, c'est l'auteur. Mais à la question, et qui est la mère? Elle répond, c'est l'acteur. Drame, scène et répétition se distinguent comme le père, la mère et l'enfant, ou encore comme le passé, le présent et l'avenir. Au théâtre, le père, c'est l'auteur, qui se distingue par une pure antériorité, doit faire l'expérience de la mort pour repérer l'épreuve de sélection du même, caractéristique de la façon dramatique de faire la différence. Les répétitions auraient alors pour fonction de sélectionner non pas le même, à faire revenir la figure du père mort, mais la différence, faire advenir le nouveau. C'est pourquoi l'acteur n'est pas un fils. L'acteur n'est pas un fils. Godard ne dit pas le fils, c'est... Non, il dit c'est la mère. C'est la mère qui porte l'enfant à naître de l'affirmation de la différence. L'acteur n'est plus le prétendant au rôle, comme dans ce casting au début du film où tous les acteurs au chômage s'exclame « moi ». Non, c'est plus ça. L'acteur, c'est la mère qui doit porter un enfant à venir, en gestation ou en devenir. Donc le film de Godard se présente comme une méditation des rapports de l'écriture, de la musique, du cinéma, de la philosophie, mais aussi du théâtre à l'histoire. Donc ça dépasse un peu le cadre de cette intervention. Il met en scène un écrivain, des acteurs de cinéma et de théâtre, un cinéaste, une philosophe, et se finit par un concert de Mozart. Camille, son cousin, et Jamila, la bonne, décident de jouer, à défaut de Marivaux, la pièce de Musset « On ne balille pas avec l'amour » à Sarajevo. Sur la route, il y a une chose très intéressante, qui fait écho avec ce que j'ai essayé d'exposer ici. Camille, qui est philosophe, explique à ses deux compagnons la différence entre le « jeu du je pense » et le « jeu du je suis » dans le Cogito de Descartes. Je cite « Le sentiment que j'ai de l'existence ne constitue pas un moi, c'est un sentiment irréfléchi. Il naît en moi, mais sans moi. » Les acteurs ont donc à se pénétrer de cette idée pour comprendre la passivité transcendantale qu'ils auront à exhiber sur la scène de l'histoire. Le personnage du cinéaste ne répond pas directement à la question de savoir ce que signifie l'adjectif fatal dans le titre du film qu'il réalise, le boléro fatal. Les scènes où il fait, dans tous les sens du terme, répéter son actrice fournissent cependant un élément de réponse à la question de savoir pourquoi ce boléro doit être fatal. Il lui demande en effet de répéter le mot « oui ». Et là, on est en plein cœur de l'éternel retour. La sélection de la différence doit faire advenir le grand « oui », la sélection de la différence affirmative. La fatalité semble donc correspondre à une sélection affirmative. Et Vitalis, le nom du personnage du père cinéaste, outre la référence à Hector Malo, semble confirmer l'hypothèse d'un vitalisme de Godard. Donc voilà, je vous conseille de revoir ce film et de le voir pour ceux qui n'ont pas vu. Merci.
Merci beaucoup, Ismaël, pour cette intervention qui donne beaucoup à réfléchir sur les implications, sur les structures temporelles dans le chapitre 2 de différentes répétitions et les différents paradigmes, les différents axes théâtraux, enfin les trois que tu as dégagés autour de l'écriture dramatique, la mise en scène et la répétition elle-même. Donc j'aurais des questions, je suppose que la salle aussi, mais...